Place du Palais Bourbon, le podcast qui connecte élus et citoyens.
Mes chers compatriotes, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
J'ai l'honneur de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Je souhaite que la Providence veille sur la France. Pour son bonheur.
Liberté, égalité, fraternité.
Et pour sa grandeur.
Bonjour, je suis Léa Chamboncel et je vous parle aujourd'hui, depuis la place du Palais Bourbon, du marketing abusif des laits infantiles dans les pays en développement. 800 000, c'est le nombre d'enfants de moins de 5 ans qui pourraient être sauvés chaque année s'ils étaient nourris dans les premiers mois de leur vie avec du lait maternel. On constate aujourd'hui que beaucoup de parents, à travers le monde, privilégient le lait infantile pour nourrir leurs nourrissons. Le lait infantile est un produit conçu industriellement pour remplacer le lait maternel. Pourtant, l'utilisation de ces produits comporte des risques pour les enfants et les prive de certains bénéfices propres à l'allaitement. En effet, le lait maternel sauve la vie des enfants car il contient des anticorps qui renforcent leur organisme et les protègent contre de nombreuses maladies de l'enfance. En outre, lorsque ces produits ne sont pas adaptés à l'âge de l'enfant, ou sont trop dilués avec de l'eau, ou mélangés avec de l'eau non potable, ou encore consommés dans des biberons non stérilisés, les enfants sont fortement exposés au risque de sous-nutrition, de maladies et de décès. Face à ces dangers, il semble étonnant de voir que les parents décident de recourir au lait infantile au détriment du lait maternel. Nous savons aujourd'hui que, très souvent, ces choix sont dictés par les pratiques commerciales des entreprises distribuant ces produits. Ces pratiques, qui sont par ailleurs très variées, campagnes de désinformation, publicité, distribution de cadeaux aux femmes enceintes ou encore mise en place de partenariats avec des professionnels de santé, ont une influence directe sur les décisions prises par les parents. Pourtant, des normes internationales et nationales, notamment un code sur la commercialisation des laits infantiles, adopté au sein de l'Organisation mondiale de la santé, réglementent ce marketing et prévoient des obligations pour les fabricants et les distributeurs de ces produits. Plus précisément, ce code interdit toutes les formes de promotion des substituts du lait maternel, y compris la publicité, les cadeaux aux agents de santé et la distribution d'échantillons gratuits. Aucune allégation relative à la nutrition ou à la santé ne peut figurer sur les étiquettes, pas plus que des images idéalisant les préparations pour nourrissons. Les étiquettes doivent au contraire comprendre des messages informant sur la supériorité de l'allaitement et des risques que présente le fait de ne pas allaiter. Face à ce contexte, des associations et ONG se mobilisent. C'est notamment le cas d'Action contre la faim, qui a lancé la campagne « Let them choose » afin d'encourager les entreprises de l'alimentation infantile à signer un pacte les obligeant auprès de la société civile à passer plus rapidement des engagements aux actes. Mais est-il normal que certaines entreprises, notamment européennes ou françaises, continuent à mettre en œuvre ce type de pratique abusive ? Que pouvons-nous faire pour les contraindre à respecter les règles édictées par l'Organisation mondiale de la santé ? C'est à ces questions que nous tenterons de répondre en interrogeant des députés aux abords de l'Assemblée nationale. En seconde partie d'émission, Jean-François Riffaut, directeur général d'Action contre la faim, nous livrera un témoignage riche sur les activités de l'ONG pour préserver la santé des enfants mis en danger par certaines de ces pratiques. Mais est-ce que nos députés ont entendu parler de cette problématique ?
Honnêtement, non.
Pas forcément, non.
Alors, en toute humilité, je connais pas du tout le sujet et donc je saurais pas du tout me prononcer. Donc, vous me prenez de court sur un sujet que je connais pas.
Alors, non, absolument pas.
Pas vraiment, non.
Écoutez, non, ça n'est pas passé sur ni mon fil Twitter, ni dans les actualités. Vous êtes la première à évoquer ce sujet.
J'ai vu un reportage là-dessus. Je suis un peu au courant. Je me suis intéressé le temps du reportage et c'est vrai que ça pose quelques questions. Mais après, je ne suis pas allé beaucoup plus loin puisque j'ai d'autres sujets aussi à traiter.
Oui, et donc c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, notamment avec la crise du Covid où ces entreprises peuvent arguer du fait qu'il y aurait de la possibilité pour les mamans de transmettre le Covid à leurs enfants en leur donnant du lait maternel. Donc effectivement, c'est un vrai sujet.
Certains en avaient effectivement déjà entendu parler. C'est notamment le cas de Yael Braun-Pivet, députée LREM des Yvelines, qui pensait néanmoins que ces pratiques n'existaient plus.
Bah, j'en avais entendu parler il y a bien longtemps de cela, il y a plusieurs dizaines d'années. Je pensais que c'était une époque révolue, mais vous m'avez appris que ça perdurait. Donc c'est assez étonnant.
Pour cette dernière, la santé de la mère et de l'enfant constitue l'enjeu prioritaire.
Je pense qu'il faut laisser chaque femme libre de son choix. Et sur ces sujets-là, je suis toujours gênée par les techniques de marketing parce qu'on est sur des sujets de libre choix de la femme, de relations mère-enfant. Sur ces sujets-là, quand il y a des questions de qualité de l'eau, on est aussi sur de la santé publique. Donc je pense qu'il faut être extrêmement précautionneux sur ces sujets-là pour s'assurer que la santé et de la mère et de l'enfant soit prioritaire.
Même constat du côté de Guy Bricout, député UDI du Nord, pour qui ce type de pratique ne devrait pas exister.
Je suis pour la santé des jeunes enfants. Et je pense que des pratiques comme celles que vous m'avez indiquées ne devraient pas exister.
Pour Gisèle Biémouret, députée socialiste du Gers, la nécessité de recourir à l'allaitement, notamment pour des raisons sanitaires, est plus importante dans les pays en développement.
Je comprends que dans des pays où l'accès à l'eau, l'hygiène, plusieurs choses qui sont beaucoup plus compliquées que chez nous, eh bien, ce soit la nécessité de l'allaitement est sûrement beaucoup plus importante que dans les pays occidentaux.
Pour Jean-Marie Fievé, député LREM des Deux-Sèvres, il faut en priorité favoriser l'accès à l'eau potable.
Et déjà, essayer d'aider par l'arrivée de l'eau potable, qui est la base de tout en fait. C'est-à-dire qu'autant on peut vivre pas mal de semaines sans manger, mais sans eau on peut pas vivre sans eau quoi. Donc il faut commencer par ramener l'eau potable à tous les villages du monde quoi, en fait, simplement quoi. Alors comment on y arrive? On sait, on suit beaucoup d'associations qui font ces choses-là hein, dans différents pays. Alors chacun a des approches par rapport à certains pays, par rapport à d'autres bien sûr. Et il faut commencer par ça quoi, je pense, par l'eau potable.
Pour d'autres, à l'instar du député LREM de l'Ain, Stéphane Trompil, le fait de profiter des difficultés que rencontrent les populations afin de vendre du lait infantile tout en mettant en danger les nouveau-nés pose un véritable problème éthique pour les entreprises qui ont recours à ce type de pratique.
La problématique, en fait, c'est déjà on profite des pays en voie de développement pour faire la vente de lait en poudre, sachant que c'est des laits qui sont quand même à mélanger avec de l'eau. On est sur des pays où, en termes de salubrité, on n'a pas forcément de l'eau potable. Donc ça engendre différentes maladies, voire la mort des nourrissons, la mort des enfants. Donc profiter, en fait, de ces difficultés-là pour vendre du lait et mettre en fin de compte la vie des mamans et des enfants en danger, c'est pas spécialement quelque chose de très éthique.
Il propose notamment de mettre en place une mission d'information ou une commission d'enquête sur ce sujet.
Peut-être on pourrait, avec des collègues, lancer une mission d'information ou voir une commission d'enquête sur ces pratiques, sachant qu'on avait déjà eu une commission d'enquête sur les laits infantiles suite aux différents scandales en France, donc pourquoi pas partir sur des choses comme ça, mais d'abord quand même passer par la pédagogie.
Enfin, pour Aurélien Tachet, député écologie, démocratie et solidarité du Val d'Oise, il pourrait être envisagé, afin de s'assurer de la mise en œuvre effective des règles édictées par le code de l'OMS, que les aides accordées aux entreprises commercialisant du lait infantile soient conditionnées au respect par ces dernières de leurs obligations en matière de commercialisation de leurs produits.
Ce serait peut-être le moment où on va aider un certain nombre d'entreprises françaises, et notamment dans l'industrie agroalimentaire, de pouvoir redire ces choses-là et de reposer des exigences en matière de sécurité alimentaire, en matière de sécurité sanitaire, qui soient beaucoup plus fortes que celles auxquelles ces entreprises sont aujourd'hui soumises. Et donc, j'espère que dans les évolutions qu'on pourrait attendre du plan de relance, une conditionnalité pourrait aussi porter sur ces aspects, par exemple, concernant ce type d'industrie.
Vous, en tant que député, qu'est-ce que vous pouvez faire ?
Nous, on peut déjà effectivement poser ce débat en interpellant le gouvernement ou en justement pendant les discussions budgétaires, peut-être essayer de voir si on ne peut pas conditionner les aides qui vont être données à ce type de contraintes. On peut déposer des amendements qui iraient dans ce sens. D'ailleurs, je pourrais tout à fait en échanger avec mon groupe qui, je suis sûr, sera très sensible à cette question puisque, comme vous le savez, nous sommes le groupe parlementaire écologiste de l'Assemblée.
Nous allons désormais échanger avec Jean-François Riffaut, directeur général d'Action contre la faim.
Je Je suis Jean-François Riffaut, je suis le directeur général d'Action contre la faim. On parle de la question importante du lait materno-infantile et de l'alimentation des nouveau-nés et des enfants en bas âge. Cette question est une question extrêmement importante lorsqu'on a pour mandat de lutter contre la faim dans le monde, mais elle est extrêmement importante, à mon avis, pour tout le monde. C'est-à-dire que les questions humanitaires en général et en particulier les questions de la lutte contre la faim n'appartiennent pas uniquement aux ONG. Je pense que c'est un premier point à rappeler. Les questions que nous traitons, nous, Action contre la faim, on les traite parce que c'est notre mandat, mais elles sont de la responsabilité collective. Donc les enfants qui meurent de faim, et il y a à peu près 5 millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent de faim chaque année sur Terre, ces 5 millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent de faim chaque année sur Terre, ils ne sont pas de la responsabilité uniquement des ONG. C'est la responsabilité de l'ensemble des acteurs de la société de s'en occuper. Et il y a un certain nombre de mesures, d'actes, de solutions qui existent pour éviter que ce chiffre augmente et même pour le faire diminuer. Et parmi ces mesures, il y a la question du lait materno-infantile. Cette question, elle est importante parce que il s'agit d'identifier le plus tôt possible les conditions qui vont permettre aux nouveau-nés et aux bébés de se développer dans les meilleures conditions possibles et d'être le moins vulnérable possible au risque de malnutrition et aux agressions extérieures, surtout lorsque ces enfants sont dans des situations et des contextes extrêmement délabrés en termes de sécurité sanitaire, en termes de sécurité alimentaire, en termes de richesse et de pauvreté, tout simplement. Donc la question du lait materno-infantile, elle se pose de manière très simple. C'est que l'ensemble des études montrent aujourd'hui au niveau international que le lait maternel comporte et propose un renforcement des capacités de protection de l'enfant, du bébé, beaucoup plus fort et beaucoup plus protecteur que le lait materno-infantile proposé par l'industrie. Et que donc, en une phrase simple, pour voir son bébé et son enfant se développer normalement et développer des capacités de protection par rapport à l'entourage et s'éloigner du risque de malnutrition, le lait maternel est le meilleur produit. C'est scientifiquement démontré. La question qui se pose à ceux et celles qui luttent contre la faim dans le monde et qui s'occupent en particulier des enfants et des bébés, c'est de s'assurer que les mamans aient le libre choix d'apporter l'alimentation qu'elles souhaitent à leur enfant.
Quelle est la position d'Action contre la faim sur cette question ?
Nous, notre position chez Action contre la faim, ce n'est pas d'imposer l'allaitement à toutes les mamans avec lesquelles nous travaillons et aux côtés desquelles nous sommes dans les 50 pays dans lesquels nous intervenons, mais c'est de nous assurer qu'elles ont le libre choix d'apporter le meilleur produit. Et le meilleur produit, c'est le lait maternel, sauf que nous faisons ça dans un contexte qui est un contexte où l'industrie agroalimentaire a développé depuis des années une politique extrêmement agressive de promotion des laits materno-infantiles, alors même que leur usage, dans les contextes dans lesquels nous intervenons, dans les contextes de grande fragilité sanitaire, eh bien, l'usage des laits materno-infantiles, contrairement à ce qu'indique l'industrie agroalimentaire, cet usage met en danger la vie des enfants. En une phrase très simple, les analyses de l'OMS, mais aussi certaines publications qu'on a pu voir dans le Lancet il y a quelques années, montre que on peut considérer que près de 800 000 enfants meurent chaque année du fait d'un mésusage du lait materno-infantile. La raison est très simple, ce n'est pas la qualité du lait en tant que tel et du produit en tant que tel qui est mise en cause, c'est le fait que la poudre en question doit être mélangée avec de l'eau et que dans un grand nombre de pays en voie de développement et de contextes extrêmement fragiles, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient et en Amérique latine, eh bien l'accès à l'eau est extrêmement précaire et l'eau à laquelle les mamans ont accès est de qualité extrêmement médiocre. Et que donc mélanger une poudre de lait materno-infantile avec une eau de mauvaise qualité, c'est mettre en danger son enfant.
Est-ce que cette problématique est prise en compte par les États et la communauté internationale ?
La réalité, c'est qu'il y a une conscience de ce risque-là, une conscience très forte de la part de la communauté internationale du risque que présente le lait materno-infantile dans des conditions sanitaires dégradées. Cette conscience, elle est très forte et elle est ancienne. Il y a un texte international, un protocole international de l'OMS qui date de 1981. et qui réglemente le comportement des entreprises de l'agroalimentaire. Donc, il y a des entreprises de l'agroalimentaire un peu partout dans le monde, mais il y en a en France aussi. Et que ces entreprises qui produisent du lait maternel infantile doivent se soumettre et respecter le cadre de 1981, qui en gros dit, quand l'usage de lait maternel infantile peut présenter des risques importants en fonction des contextes dans lesquels il est utilisé, du fait du mélange potentiel avec de l'eau impropre, et donc peut entraîner des graves problèmes de santé pour les enfants et la mort des enfants. Deuxièmement, et de ce fait-là, les entreprises de l'agroalimentaire s'engagent à respecter des règles, notamment de promotion marketing réduite, de façon à s'assurer que les mamans et les parents ne soient pas confrontés à une publicité qui leur fait croire que la meilleure solution, c'est le lait maternel infantile, alors que dans le contexte dans lequel ils sont, la meilleure solution, c'est certainement d'éviter le lait maternel infantile parce que l'eau est impropre. Or, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que l'ensemble des mesures portées par cette réglementation qui est déjà ancienne, ne sont pas respectées par les entreprises. Et les grandes entreprises laitières et de l'agroalimentaire, et celles qui produisent du lait maternel infantile, à l'international comme en France, aujourd'hui, continuent à ne pas respecter ces règles-là. On constate, nous, et nous l'avons fait chez Action contre la faim, des études assez précises au Cameroun, au Burkina Faso ou au Bangladesh. On constate une omniprésence de la publicité d'activités marketing présentant une idéalisation de l'usage du lait maternel infantile auprès de femmes qui sont déjà fragiles, mais qui sont en plus vulnérables à cette communication outrancière. On constate des activités marketing qui amènent ces entreprises à faire des cadeaux aux parents et aux mamans à la maternité ou lorsqu'elles vont dans des lieux de santé pour les pousser, si ce n'est dire les forcer à acheter du lait maternel infantile plutôt qu'à allaiter leurs enfants. Et on constate également des pratiques très délétères de cadeaux au personnel de santé pour amener le personnel de santé à prescrire ou à favoriser l'usage et le recours au lait maternel infantile. Nous disons tout simplement que la question de la faim dans le monde, elle passe aussi par la question de la promotion des laits maternels infantiles et elle appelle encore une fois à la responsabilité de l'ensemble des acteurs et non uniquement des acteurs qui agissent sur le terrain pour endiguer ce fléau-là, mais des acteurs qui contribuent à ce fléau. Et les premiers d'entre eux sont les entreprises agroalimentaires et les entreprises industrielles qui fabriquent du lait maternel infantile. Donc nous avons, chez Action contre la faim, depuis plusieurs années, commencé des activités de plaidoyer et de sensibilisation que j'espère être constructive, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de blame and shame où on ne veut pas dénoncer et humilier les entreprises en question, ce n'est pas notre culture. On a plutôt envie de parier sur la raison et sur l'intelligence des dirigeants de ces entreprises et sur leur sens de la responsabilité. Ce que je suis contraint de dire, c'est qu'on n'a pas été très efficace parce qu'en face de nous, on n'a pas forcément des personnes qui souhaitent réellement appliquer et respecter le code de conduite de l'OMS sur le marketing autour des maternels infantiles. Donc concrètement, on avait proposé un pacte il y a 2 ans, un certain nombre d'entreprises, à Danone en particulier, mais aussi à Nestlé et à d'autres entreprises qui produisent des laits maternels infantiles, dans une logique qui me semblait raisonnable, c'est-à-dire vous n'êtes pas encore au rendez-vous des engagements de 1981, mais vous avez des positions qui énoncent votre volonté de bien faire, eh bien, ok, faites bien et on va vous accompagner sur ce chemin-là. Ce pacte n'a pas été signé. Et aujourd'hui, nous avons toutes les peines du monde à faire évoluer la position des entreprises et faire évoluer la position des entreprises en matière de promotion du lait maternel infantile. C'est tout simplement faire respecter le code de l'OMS de 1980 et bannir les activités marketing de promotion de ce lait maternel infantile dans les contextes où l'usage de ce lait, du fait de la piètre qualité de l'eau, représente plus de risques pour les enfants que de bienfaits. Derrière ça, il y a une posture extrêmement importante pour nous chez Action contre la faim, c'est le respect de la dignité des personnes et notre conviction profonde que nous avons que c'est le choix de la maman de décider de le mode d'allaitement et le mode d'alimentation de son enfant. Et donc notre campagne s'appelait « Let them choose », »,« Laissez-les choisir », bien entendu en rappelant que dans des contextes sanitaires extrêmement précaires, c'est le lait de la maman qui est l'aliment le plus pertinent et le plus sûr pour l'enfant. Et que donc la question qui se pose, c'est encore une fois une question de responsabilité, c'est est-ce que l'on veut accompagner les personnes en considérant qu'elles sont responsables de leur vie, mais aussi être nous-mêmes des acteurs responsables, c'est-à-dire créer les conditions pour que chacun puisse choisir librement, mais de manière éclairée et juste, et non pas de manière éclairée et injuste, ou des présentations d'usage de tels produits pour des simples raisons mercantiles et des simples objectifs de maximisation du produit, du profit, eh bien faire en sorte que ces activités de marketing outrancière qui présentent le recours à des laits infantiles comme la panacée et qui idéalisent ce mode d'alimentation des bébés-là, eh bien soient bannies afin que tout simplement les enfants puissent continuer à vivre là aujourd'hui où lorsque leur maman ont recours au lait materno-infantile avec de l'eau viciée, eh bien, leur vie est en jeu.
Est-ce que, d'après vous, les choses commencent à évoluer ?
Le point le plus important, c'est que nous voyons les difficultés à faire évoluer la position des entreprises, alors même que dans une autre dimension, de nombreuses entreprises déclarent haut et fort s'être engagées à devenir des entreprises à mission, à avoir mis au plus haut de leurs engagements la responsabilité sociale et l'impact social qu'elles veulent avoir. On ne peut que supporter cela, on ne peut que soutenir et favoriser et appeler les entreprises prendre en compte les enjeux de société, les enjeux environnementaux et les enjeux humains qui sont liés à l'activité humaine sur Terre. Et on ne peut que supporter la volonté des entreprises de devenir des entreprises à mission et de ne pas poursuivre que le profit et la distribution de profits aux actionnaires, mais poursuivre également les bienfaits auprès de la société. En revanche, ce qui serait intéressant, c'est de voir que ces déclarations-là se traduisent dans les faits, et dans les faits, d'autant plus lorsqu'ils concernent des éléments concrets de leur business model, et très concrètement, lorsque des entreprises de l'agroalimentaire déclarent vouloir devenir entreprise à mission. Eh bien, ce qui m'intéresse, moi, pour l'appliquer au lait materno-infantile, c'est de vérifier que les pratiques délétères de marketing abusifs, excessifs et mensongers s'arrêtent afin que les mamans des pays en voie de développement qui n'ont pas accès à de l'eau de qualité puissent avoir bien conscience que le risque pour leur enfant, c'est qu'elles aient recours au lait materno-infantile et qu'elles le mélangent avec de l'eau de piètre qualité, alors que la solution pour que leur enfant se développe normalement et devienne un adolescent et ensuite un adulte, c'est d'avoir recours au lait maternel. Ce qu'on constate également, c'est que les ONG, aussi déterminées qu'elles soient, aussi mobilisées qu'elles soient, eh bien, n'ont finalement qu'une influence relativement limitée sur les grandes entreprises multinationales, notamment de l'agroalimentaire. On le voit bien en matière de respect du code de l'OMS sur le lait materno-infantile. On n'arrive pas exactement à faire respecter, alors même que c'est un engagement que chacun a pris. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'il ne faut pas que nous mettions une pression au sol et il faut que d'autres acteurs de la société nous accompagnent là-dessus. Parmi ces acteurs-là, évidemment, les représentants du pouvoir législatif, les députés, les hommes politiques ont leur mot à dire, ont même une responsabilité, me semble-t-il, importante. Et il faut la mettre en perspective, cette responsabilité. Cette responsabilité, ce n'est pas de défendre des ONG et ce n'est pas de défendre des intérêts particuliers des ONG. Nous ne défendons pas notre intérêt particulier. Nous sommes uniquement les porte-voix de personnes qui sont en grande difficulté et qui voient leur vie leur échapper. Et donc, encore une fois, lorsque les ONG font du plaidoyer sur tel ou tel sujet, et en l'occurrence sur le bannissement des pratiques marketing en matière de lait materno-infantile, ça ne rapporte pas d'argent, ça n'augmente pas les salaires des collaborateurs des ONG. Ce n'est pas un combat sectoriel, c'est un combat pour l'intérêt général. Et ce combat pour l'intérêt général, puisqu'il ne nous appartient pas uniquement à nous, il doit être porté par l'ensemble des acteurs qui souhaitent contribuer à une société plus juste. Et si les représentants français qui siègent au Parlement souhaitent s'engager pour nous accompagner et accompagner tout simplement le respect de ce code de conduite, eh bien nous, on sera très heureux de pouvoir engager des discussions de façon à renforcer leurs convictions et à les aider à faire une pression amicale et intelligente sur les grandes entreprises, et notamment françaises agro-industrielles, productrices de lait maternel infantile, afin qu'elles se mettent à respecter enfin les règles dictées par l'OMS.
Jean-François Riffaut, je vous remercie vivement pour cette précieuse interview. C'était Place du Palais Bourbon. Merci de nous avoir écoutés.
Want truly hydrated skin? Meet Osea's body care breakthrough, Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code SUMMER.